Session théologique.
Continuez cet effort de méditation théologique et de prière sur le mystère de Jésus. Comprenez bien, tout ce que nous dit saint Thomas en théologie scientifique doit nous aider à lire en profondeur l'évangile de saint Jean. Théologie scientifique, toute notre intelligence dans ce qu'elle a de plus exigeant, et la métaphysique n'a pas d'autre but. Chercher la vérité, mais déguiser notre intelligence pour qu'elle retrouve cette soif de vérité. Aujourd'hui, on ne cherche plus la vérité. Je me souviens, un des pères dominicains, le père Molinier, que certains connaissent, que j'avais reçu quand j'étais au Solchoir, j'étais étudiant. Un étudiant de philosophie à Paris qui préparait son agrégation de philo. Quand il a demandé d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, au conseil, on lui a demandé « Quel est le professeur de Sorbonne qui vous a le plus marqué ?» Alors, il a réfléchi quelques minutes, il a dit « Aucun ». Et là, il a ajouté, aucun ne cherche la vérité. Et c'est vrai, aucun ne cherche la vérité, ne cherchez la vérité. On regarde les opinions, on a des spécialistes de Hegel, on a des spécialistes de Nietzsche, on a des spécialistes de Freud. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Pour notre intelligence dans son appétit de vérité par rapport à la connaissance de l'homme. Je crois qu'il faut être très, très, très sensibilisé à ça si on veut ne pas perdre trop de temps. Parce que la grande astuce du démon, c'est de nous faire perdre du temps. Mais on est devant un rond-point, orientation, 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 orientation. Plus de vérité du tout. Alors, ce qui est très beau dans saint Thomas, je sais bien, c'est difficile, c'est qu'il y a perpétuellement cette recherche de la vérité. Je crois que toute sa vie a dit ça, impitoyablement. Même s'il se mettait à dos les franciscains, ce qui est arrivé, même s'il se mettait à dos les sorbonnards, ce qui est arrivé, cherche la vérité perpétuellement, avec évidemment un souci de la communiquer, de la donner, mais une recherche de vérité. Alors, nous avions hier vu à propos des convenances, j'y tiens beaucoup, vous voyez, article 1, article 3 de la question 1. Vous savez comment on note saint Thomas. La recherche. Tertia pars, question 1, article 1, article 3. Donc, l'article 1, c'est de montrer la bonté souveraine. La bonté souveraine de Dieu. Qui nous fait comprendre comment Dieu, dans le désir le plus foncier de son cœur, cherche à se communiquer le plus possible. C'est son désir, la communication de la bonté de Dieu. Et la communication la plus grande, c'est le mystère du Verbe incarné. Dieu ne peut pas se communiquer plus que par le mystère de l'incarnation. quelques sommets. Alors je souligne ce que nous avons vu hier, mais que je crois très important, parce qu'on est constamment en face de cette objection que souligne saint Thomas, que quelqu'un comme Rostand soulignait, que Maritain souligne quand il parle des idéologies athées. C'est toujours ce problème de la souffrance. La souffrance est telle, comment parler d'un Dieu souverainement bon ? Alors, bien comprendre, le problème de la création est un risque énorme. Si Dieu crée, il crée des êtres limités. Il ne crée pas des êtres mauvais. Hein. Il crée des êtres limités. S'il crée des êtres spirituels, ils sont limités. Et donc, ils peuvent choisir une voie qui n'est pas droite. Ils peuvent s'orienter vers l'exaltation d'eux-mêmes. Je crois qu'il faut parler de ce grand risque du Dieu créateur, le risque de tous les artistes. C'est pour ça que les artistes doivent être magnanimes. Et la magnanimité de Dieu, comme créateur, se manifeste du fait que, après avoir créé les anges, quand Dieu a communiqué aux anges qu'il allait aller plus loin, qu'il allait créer ses benjamins, ses petits derniers, et les anges n'ont pas accepté d'avoir comme frères et sœurs des peaux rouges. Adam, des rouges. D'avoir comme frères et sœurs de pauvres petits êtres spirituels mais liés à la matière. Et Dieu a voulu ça pour communiquer à ses benjamins la possibilité d'être source de vie. Mais c'est le grand mystère de la fécondité qui a été de fait l'obstacle. Or, il y a une fécondité en Dieu, la très sainte Trinité. Chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est la femme qui enfante devant lequel le dragon est en face et il est en arrêt. Rouge feu, en état de colère. Le démon n'accepte pas que Dieu ait communiqué la fécondité à ses benjamins. Et qu'avec les benjamins, tout est en quelque sorte modifié. Ce n'est plus un ordre intellectuel, c'est un ordre d'amour. Et c'est ça que Lucifer n'a pas accepté. En face de ce refus de Lucifer, tu aurais pu dire, si c'est ça, j'arrête la création. Pour recevoir des gifles de ceux que j'aime, de ceux à qui j'ai tout donné, j'arrête. Eh bien non, Dieu continue. Ça c'est la magnanimité du Créateur. Dépasser le refus de Lucifer. D'être magnanime. C'est très important de voir dans la bonté de Dieu, première création, les anges, deuxième création, l'univers, l'homme et la femme, et troisième communication, c'est plus une création, c'est le mystère du Verbe incarné. Les trois moments successifs. Et ça, on le voit dans le prologue de saint Jean. Si on est attentif, si on le comprend, on voit très bien les trois moments. Il a créé l'homme, il a créé notre univers, l'homme et la femme, dans la lutte. Puisqu'il y avait déjà les mauvais anges, Lucifer, et la myriade des mauvais anges, se manifeste dans la création de l'homme et de la femme. Il se manifeste surtout dans l'incarnation. Là, il crée une œuvre parfaite. L'âme du Christ est parfaite. Jésus, c'est l'homme dans toute sa perfection. Il n'y a pas la moindre trace de mal. Alors, c'est la manifestation du Dieu, du Père, dans toute sa bonté. Article 3, nous avions vu hier aussi. Dieu serait-il incarné si l'homme n'avait pas péché? Est-ce que l'incarnation du Christ est premièrement en vue du salut de l'homme? Ou est-ce que l'incarnation est premièrement l'achèvement de la création? Question très importante pour notre regard sur le Christ. Question très importante pour comprendre les rapports de la nature et de la grâce. Parce que tout ça est sous-jacent. Il y a deux manières de regarder les rapports de la nature et de la grâce. Et ça fait deux spiritualités tout à fait différentes qui ont toujours existé dans l'Église. Où vous considérez que la grâce fait de nous avant tout des fils de Dieu. Où vous considérez que la grâce fait de nous des surhommes. Est-ce que la grâce est donnée en premier lieu pour perfectionner la nature? Vous êtes en face d'un humanisme. Humanisme chrétien. Où vous êtes en face du mystère de la grâce qui fait en premier lieu pour nous des enfants de Dieu. Sans détruire la nature, mais la grâce est premièrement tournée vers le Père. Enfants de Dieu. Et vous retrouvez, voyez, la conception du mystère du Verbe incarné qui achève la création. Où le Verbe incarné et le Sauveur. Alors, il ne s'agit pas d'opposer, mais il s'agit de comprendre qu'il y a là deux orientations différentes. Et ça commande deux théologies tout à fait différentes. Les rapports de la grâce et de la nature, il y a eu une querelle théologique extrêmement importante, le De Auxilis, entre dominicains et jésuites, pendant 100 ans, la guerre de 100 ans. Et puis à un moment donné, l'Église a dit, taisez-vous, arrêtez. Alors à ce moment-là, les théologiens obéissaient, ils se sont tus, ils sont arrêtés. Mais ça continue, d'une façon souterraine. Et vous voyez que cette théologie commande deux spiritualités et commande deux pastorales différentes. Très curieux. La pastorale est commandée par la théologie. Hein. C'est pas la pastorale qui guide la théologie. Mais c'est l'inverse. Ça ne peut pas être autrement, du reste. Il s'agit de la communication du mystère de Dieu et de mystère de l'Évangile. Alors, il y a deux conceptions différentes. Et c'est très important de comprendre ça dans l'histoire de l'Église. Ça a toujours existé. Alors il y a des extrêmes. Pélage et Augustin. Dès le début, Pélage et Augustin. Et Pélage est un moine. Les moines vont toujours très loin. Les extrêmes.
Christ. C'est ça qui est important pour nous. C'est d'être pleinement disciple du Christ. Et l'Église est là pour nous aider à être pleinement disciple du Christ. Le but, c'est d'être des enfants de Dieu. Pleinement et totalement. Vous savez, le vieux cantique hein, qui disait à quoi sert de régner sur le monde si on perd son âme. Avant tout, sauver son âme. Et c'est toujours la même chose. Bon, alors, j'ai vu le corps de l'article, cette position de saint Thomas, très belle, parce que elle respecte cette sorte d'appel qui est en nous. Jésus couronne la création. Saint Thomas respecte ça. Et s'il dit ouvertement que ce n'est pas sa position. Sa position, elle colle à l'écriture. Il est avant tout un croyant. Le théologien est plus croyant que philosophe. Alors, en tant que croyant, puisqu'il s'agit d'un acte libre de Dieu, le mystère d'incarnation. Que dit l'Écriture ? L'Écriture lit toujours le mystère de l'incarnation au mystère du salut. C'est venir sauver l'homme. Et donc, le mystère de l'incarnation est avant tout le mystère du salut pour l'homme. Voilà la position du théologien. Mais saint Thomas reconnaît qu'il y aura tout le temps en nous une nostalgie philosophique néoplatonicienne. C'est la grande nostalgie néoplatonicienne. C'est la grande nostalgie de l'ontologisme. La création ne peut pas être inachevée. Elle doit s'achever dans le Christ. Et c'est, on retrouve ça au point de vue philosophique. C'est la position de Leibniz. Et la position de saint Thomas. Pour Leibniz, Dieu a créé le meilleur monde possible. Pour saint Thomas, non. Et c'est très beau, du reste, de voir que Dieu n'a pas créé le meilleur monde possible. Parce que Dieu a voulu laisser la place à l'homme, transformer l'univers. Si Dieu avait créé un univers parfait, il n'y aurait pas de place pour l'activité artistique. Et c'est la position de Leibniz. C'est la position des savants. Parce que Leibniz, c'est le philosophe des savants. C'est la dernière grande apologétique. Mais qui est inacceptable, je ne suis pas du tout Leibniz. Mais on comprend la séduction, et Leibniz joue une très grande séduction chez les savants, à cause de ça. C'est le philosophe des savants. Parce qu'il fait croire que de fait, tu as réalisé le meilleur monde possible. Saint Thomas comprend que Dieu a laissé passer devant l'homme pour que l'homme achève l'univers. Et c'est ça qui est très beau. Vous voyez, tu aurais pu créer un monde le meilleur possible. Il n'a pas fait. Pour que l'homme achève l'univers. L'art. La place de l'artiste. Et saint Thomas reconnaît cependant qu'il y a quelques points sur lesquels Dieu a réalisé l'œuvre la plus parfaite qui soit, l'incarnation, la maternité divine de Marie. Il n'y a rien de plus parfait pour une créature, pour la femme, d'être la mère de Dieu. On ne pourrait pas rêver quelque chose de plus parfait, d'être la mère de Dieu. aux objections que nous avions vues hier. D'abord, la parole de saint Augustin. Je vais aller assez vite, parce que le temps presse. Alors, réponse de saint Thomas, première objection. Tous les motifs que l'on donne de l'incarnation se rapportent en définitive au motif principal du péché. Si l'homme n'était pas tombé en effet, il eût pu illuminer des lumières de la divine sagesse et établi par Dieu dans une rectitude morale parfaite, connaître tout ce qui lui était nécessaire. Mais l'homme s'étant détourné de Dieu pour se porter vers les créatures sensibles, il convenait que Dieu se fit homme afin de le sauver par le moyen de ces mêmes créatures sensibles. Comme le dit saint Augustin, commentant cette parole de saint Jean, le Verbe s'est fait chair. La chair vous avez aveuglé, la chair vous guérit, car le Christ est venu dans la chair pour éteindre les passions de la chair. Ça, c'est du très bon saint Augustin. L'homme a péché par un amour trop grand du sensible. Eh bien, rectifions-le dans le sensible. C'est de l'homéopathie divine. Ah oui, c'est de l'homéopathie divine, ça, dans le gouvernement divin. Extraordinaire. La chair du Christ devient source de salut. La parole de la cananéenne, il faut que je touche. Et nous le touchons dans l'Eucharistie. Ça commande l'Eucharistie qui pousse le mystère d'incarnation jusqu'au bout. Voyez, posez-vous la question. Si Dieu s'était incarné uniquement pour achever la création, il n'y aurait pas eu l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est parce qu'il vient nous sauver. Alors il se donne en nourriture pour nous. Ça, c'est sûr. L'Eucharistie ne se comprend pas comme achèvement de l'univers. Pas possible. Seconde réponse. La toute-puissance divine de parfaire ses œuvres, donc demande d'aller jusqu'au bout d'un effet parfait, donc d'un effet infini, l'incarnation. Réponse de saint Thomas, la puissance infinie de Dieu se manifeste déjà dans la production des choses à partir du néant. Ah, ça c'est très très fort. Du fait même que Dieu crée, il manifeste sa puissance infinie. Parce que n'importe quelle petite bête du bon Dieu dans la création manifeste la toute-puissance de Dieu, parce qu'il crée à partir de rien. Ex nihilo. Donc la petite bête du bon Dieu. Quand vous voyez une petite bête du bon Dieu, c'est joli une petite bête du bon Dieu. C'est magnifique. Eh bien, si vous aviez un œil suffisamment pur, vous diriez, il faut un créateur infini pour faire ça. Je connais des biologistes merveilleux, des savants, qui sont chrétiens, et qui, eux, disent, plus je creuse la complexité du vivant, plus je suis en adoration devant la sagesse de Dieu. Et c'est vrai, c'est l'argument saint Thomas. Et la physique ou l'astrologie nous conduit à la même chose. Quand on regarde la complexité des galaxies du ciel, il n'est requis à la paix. extatique dépasse ses limites. Ça, c'est très fort. La création comme telle ne postule pas l'incarnation. C'est ça que saint Thomas veut dire ici. Hein. Et c'est dit avec beaucoup de force. Hoc autem excedit limites perfectionis naturae, ut natura uniatur Deo in persona. Que la nature créée soit unie à Dieu dans sa personne, union hypostatique. Ceci dépasse, transcende les limites de la perfection de la nature. La créature comme telle est limitée. Le mystère de l'incarnation implique quelque chose d'infini et donc ne peut pas être postulé directement par la création. Autre chose, les nostalgies et un regard intelligent. Les nostalgies, c'est imaginatif. Il y a beaucoup d'imagination dans le néo-platonisme. Il y a beaucoup d'imagination dans la position de l'ontologisme. Ce sont des philosophies romantiques. Ce n'est pas des philosophies intelligentes. Jusqu'au bout de l'intelligence, hein, je parle. Ce sont des nostalgies. C'est très beau, les nostalgies. Je les aime beaucoup, les nostalgies, au clair de lune. Mais puis c'est vrai, quoi. C'est... Quand vous faites une philosophie au clair de lune, vous êtes en phase nostalgie. De nostalgie énorme. C'est beau. Ça fait partie du cœur de l'homme et de son imagination. Mais c'est pas tout à fait vrai. Mais pour que l'univers soit parfait, pour la beauté de l'univers, il faut que ça se termine dans l'incarnation. C'est pas tout à fait juste. Vous voyez, retenez cette parole de saint Thomas. Il faudrait la méditer, hein, parce qu'elle est très très forte. Oh, quotem excedit limites perfectionis naturae, ut natura uniatur Deo in persona. Cela dépasse, transcende, excedit, transcende les limites de la perfection de la nature, que la créature soit unie à Dieu in persona. Donc l'union hypostatique. Troisième réponse. Il y a une double aptitude dans la nature humaine, l'une naturelle, et que Dieu satisfait toujours en donnant à sa nature ce que comportent ses capacités propres. L'autre surnaturel, qui tient à l'entière dépendance de la créature par rapport à la puissance divine. Il est bien évident que Dieu n'est pas tenu de satisfaire cette aptitude. Autrement, il ne pourrait produire dans la créature rien de plus que ce qu'elle possède en fait. Ça, c'est aussi un regard du théologien, un regard critique. Duplex capacitas potest attendi in natura humana. Donc, dans la nature humaine, il y a une double capacité. Il y a la capacité naturelle, selon l'ordre de la puissance naturelle. Et puis une capacité qu'on appelle la capacité obédientielle par rapport à Dieu lui-même, par rapport à l'ordre surnaturel. L'ordre surnaturel de la grâce n'est pas entièrement selon notre capacité naturelle. Ça dépasse. Vous voyez, c'est toute la relation de l'ordre, de la grâce et de la nature qui est le problème théologique fondamental sur lequel on revient tout le temps. Alors, ce serait intéressant, vous voyez, de regarder tout ce qui a été dit là-dessus. Comment comprendre les rapports de la grâce et de la nature? Par là, vous comprenez les rapports de la création et de l'incarnation et de la rédemption. Saint Thomas montre que le mystère de l'incarnation dépasse infiniment la capacité naturelle de la créature, de la nature humaine. Il n'y a aucun droit inscrit dans la nature humaine à l'ordre surnaturel. Mais rien ne s'oppose, à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu ne permet le mal, en effet, qu'en vue d'un bien meilleur. Alors ça, soulignez ça 10 fois. Deus enim permittit mala fieri. Ut inde melius eliciat aliquid. Ça, je crois qu'on devrait garder cette affirmation tout le temps. Dieu ne permet le mal qu'en vue d'un bien meilleur. On ne peut pas permettre le mal si ce n'est pas en vue d'un bien meilleur. Autrement, on est lâche. Pilate. Pilate a permis le mal. Il a permis que le Christ soit livré, reconnaissant qu'il était innocent. Il était lâche. Les permissions sont quelquefois une lâcheté quand on est incapable de se servir du mal pour un bien supérieur. Dieu permet la souffrance pour un bien supérieur. Dieu permet la mort pour un bien supérieur. Dieu permet le péché pour un bien supérieur. Toujours. C'est ça le propre de la peine. La peine, c'est toujours pour un bien supérieur. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on devrait se poser la question de la peine capitale. Pouvons-nous permettre la peine de la mort sauf pour un bien supérieur? C'est très intéressant d'interroger les aumôniers de prison à ce point de vue-là. Il y avait plusieurs dominicains qui étaient aumôniers de prison à Paris, qui étaient des amis, auxquels j'ai beaucoup questionné là-dessus. Et tous disaient, c'était très curieux, que la peine capitale éveillait dans l'homme un dernier sursaut d'appel vers Dieu. Alors que la prison à perpétuité met l'homme dans une condition terrible. C'est très curieux, ça. C'est pas à cause de là qu'on doit dire, hein. Faisons attention, hein. Je donne ça à titre de réflexion. Je ne conclue pas. Ce serait un trop grave problème quand on fait une question disputée entre nous sur ces questions. Les passions se réveillent, les passions politiques. Il n'y a rien de plus. Il y a deux passions terribles dans l'homme, les passions religieuses et les passions politiques. Et quand les passions politiques et les passions religieuses sont mêlées, comme dans l'islam, alors ça devient quelque chose d'affolant. Séparons toujours bien les passions religieuses, qui peuvent aller assez loin, les jalousies pontificales. Oh là 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 là. C'est terrible. Et les jalousies politiques du pouvoir. Quatrième réponse. Le Christ a été prédestiné à être fils de Dieu selon la parole de saint Paul. Mais la prédestination de Dieu étant éternelle est immuable. C'est cette fameuse objection-là. Réponse de saint Thomas. La prédestination suppose la prescience des choses futures. Ainsi, Dieu prédestine parfois un homme au salut en raison de la prière à venir. souvenir de ses frères. Vous avez été enveloppé de la prière de tante Carmélite.
Et c'est ça qui vous a sauvé. Les prières des saints font partie de la prédestination. C'est pour ça que c'est très heureux, un signe de prédestination, quand vous avez une tante carmélite. Ou une tante Clarisse, ou une tante contemplative dominicaine, ou une contemplative. Les contemplatives sont les paratonnerres. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que toujours les gros orages éclatent là. C'est pour ça que ça fait peur. Parce que ce sont des paratonnerres. Je vais recevoir la foudre. Je ne veux pas me mettre trop près. Ici, on les a mis tout près. Et les prières des contemplatives font partie de la prédestination. Il ne faut jamais oublier ça. Et les contemplatives doivent se le rappeler. Elles sont les paratonnerres de l'Église. Là où il n'y a plus de contemplatives, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus. Tout descend. Dégringole. Elle porte la vie apostolique. À ce point de vue-là, c'est le propre des contemplatifs. Alors, en premier lieu, la vie apostolique de leurs frères et de leurs sœurs, en premier lieu, et la vie apostolique de toute l'Église, comme les carmélites, de tous les prêtres. De même, Dieu a prédestiné le Christ à être fils de Dieu en raison du péché à réparer. Ouais, ça devrait être très net. Dans la prédestination du Christ à être fils de Dieu, est impliqué le péché à réparer. Donc l'opus, hein, en latin, c'est plus fort. Ita et siam, predestinavi. Donc Dieu a prédestiné le Christ. Donc l'opus incarnationis, l'œuvre de l'incarnation, a été prédestinée. Et dans le regard de Dieu, en impliquant le remède au péché de l'homme, c'est impliqué dans le regard de la prédestination. Enfin, on peut révéler à quelqu'un un événement futur sans lui en découvrir la cause. Dieu a très bien pu révéler au premier homme le mystère de l'incarnation sans lui faire connaître que le motif en serait son propre péché. Je n'insiste pas plus. Alors l'article 4, le motif principal de l'incarnation, a-t-il été d'effacer le péché originel plutôt que le péché actuel? Et saint Thomas montre que c'est évidemment le péché originel qui est le motif principal, puisque celui-là atteint toute l'humanité. Et qu'un homme ne peut pas réparer la faute d'Adam. Alors évidemment, là, c'est tout le grand problème du péché originel. Je n'entre pas dedans. Il faudrait faire une fois une session théologique sur le péché originel. Est-ce que ça vaut la peine? C'est un des problèmes les plus terribles aujourd'hui. C'est parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'est Adam dans la lumière de la révélation. Adam ne se comprend que dans une lumière de foi. C'est pas du tout le premier homme à la manière du savant. Le savant cherche quel est le premier homme. Le croyant dit c'est Adam. Et il y a équivoque complet entre les deux. Donc évitons cet équivoque. Et comprenons qu'Adam, pour le croyant, c'est le responsable de toute l'humanité. C'est pour ça qu'on parle du nouvel Adam, Jésus. Ce responsable de toute l'humanité. Dieu était libre de faire que le premier homme soit le chef de l'humanité.
de celui qui était juste avant lui. Alors, je prends tout de suite maintenant la question de le grand mystère de l'incarnation. Alors, vous voyez, l'ordre de saint Thomas, c'est quand même très important. Ce regard de sagesse. Quel est le regard de Dieu sur Jésus? C'est important. Le croyant sait qu'il peut aller jusque-là. C'est évidemment tout à fait autre chose. La perspective d'aujourd'hui qui vient de certains théologiens très contaminés par Hegel. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on considère cette perspective de saint Thomas comme une théologie qui vient d'en haut. Et on voudrait faire une théologie qui vient d'en bas. C'est dit explicitement. Hein. C'est pas moi qui caricature, c'est dit comme ça. Et donc, on regarde dans le Christ l'homme. Et on ne regarde pas dans le Christ en premier lieu le Verbe incarné. Le Christ, l'homme. L'homme parfaitement homme. Et on remonte par là, progressivement, sur Dieu. Quelle a été la conception de Dieu dans le Christ? Quelle est la conscience que le Christ a eue d'être fils de Dieu? Oui, c'est à partir de l'homme. Alors, est-ce encore une théologie ou est-ce une apologétique? Le père de grand maison, au début du siècle, qui était l'âge apologétique, avait fait une très belle apologétique à partir du Christ regardé comme homme. Mais il savait que c'était une apologétique. Le théologien est un croyant qui regarde tout sous la lumière de Dieu. Et ceci, c'est la conception théologique depuis les pères de l'Église, en passant par le Moyen-Âge, en passant par Bellarmine, et jusqu'à ces derniers temps. Mais il y a, il faut bien le comprendre, il y a dans le point de vue théologique quelque chose de tout à fait nouveau. Et dans la perspective d'une christologie, c'est évident qu'on le voit tout de suite. Une théologie d'en haut, le regard de Dieu, le regard de la sagesse de Dieu sur le Christ. Que dit l'Église sur Jésus? Concile de Chalcédoine. Le théologien est intéressé directement à ça. Parce que le théologien est serviteur de l'Église. Serviteur de la foi. Serviteur de l'enseignement de l'Église. Tandis que dans la théologie, tu vois, dans le mouvement principal de la théologie d'aujourd'hui, alors, c'est évident qu'il y a une lutte à l'intérieur des théologiens. C'est bien évident. Dans une faculté de théologie, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On voit les deux tendances. À Fribourg, c'était très net. Il y avait les deux tendances. Et à propos de tous les problèmes, on retrouvait les deux tendances. Alors, pour le Christ, c'est dit explicitement. Quand on voit et quand on essaie de comprendre un peu la position actuelle, ce qui est important, on doit comprendre la position actuelle. On On n'a pas le droit de l'ignorer. Mais pour répondre à cette position actuelle, si on cherchez bien à travers toute l'écriture, vous ne le trouverez pas. Jésus a dit qu'il fallait chercher la vérité. Il est venu pour être témoin de la vérité. Et ça lui en a coûté la vie. Ça, c'est sûr. Il est mort comme témoin de la vérité. C'est pour ça qu'il est le martyr par excellence. Et c'est vrai que quand on n'a pas comme premier but être de son temps. Le monde nous hait. Et Jésus nous dit de ne pas nous en inquiéter parce que le monde l'a haï en premier lieu. C'est dans Saint Jean. Il faut accepter de lutter pour chercher la vérité. Et pour chercher la vérité, il faut lutter tout le temps. Ce qui n'empêche pas que l'apôtre, dans son cœur, cherche à être le plus proche possible des hommes, s'adapter aux hommes, dans son cœur. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui fait du reste, je crois, la souffrance de l'apôtre. C'est qu'il voit combien c'est difficile de communiquer la vérité dans un monde pollué d'idéologie athée. Pollué par Freudisme, pollué par le positivisme, pollué par tout ça. Mais il doit maintenir cette recherche de la vérité. Il doit avoir un cœur infiniment miséricordieux pour être tout proche des hommes d'aujourd'hui et essayer de les relever, de les éclairer. Avoir le langage de l'homme d'aujourd'hui, le langage des enfants quand il enseigne aux enfants, le langage des hommes dans leur expérience humaine, et l'ouverture au monde, le concile. Et l'ouverture au monde consiste à être attentif aux hommes, et donc d'être philosophe avec la psychologie. Puisque je ne peux pas connaître l'homme pleinement sans un regard philosophique. La philosophie est faite pour ça. Et c'est comme ça qu'on comprend que l'homme est la route de l'Église. Parce qu'il y a toujours ce regard sur l'homme. Mais il y a perpétuellement ce retour à la source dans un regard du théologien et du contemplatif. Alors, après avoir précisé, autant qu'on le peut, ce regard divin sur le mystère de l'incarnation et de la rédemption, saint Thomas se pose tout de suite la question. Il nous faut maintenant étudier de quelle manière le Verbe s'unit à la nature humaine. Vous voyez, nous partons du Verbe, c'est explicite. Mystère de l'incarnation auquel nous croyons. Notre foi chrétienne nous fait adhérer au mystère de l'incarnation. Alors on doit se poser la question, et ça c'est la question du théologien, de modo unionis, de modo. Manière, le mode, comment le Verbe est uni à la nature humaine. Il y a le Verbe et l'homme. Eh bien, comment cette union se fait-elle? Il n'y a pas qu'une seule manière de concevoir cette union. Alors, comment concevoir cette union? Alors, pour bien concevoir cette union, saint Thomas analyse. C'est une analyse du théologien. Nous traiterons d'abord laquelle se fait cette union. Enfin, de la nature qui est unie. Vous voyez, les trois manières de regarder cette union. Je regarde l'union en elle-même. Oh, cette union, je ne l'invente pas. L'Église me dit de quelle manière s'est faite cette union. Donc, j'étudie cette union en elle-même, dans la foi. C'est le croyant qui étudie cette union. Comme cette union se fait avec le Verbe, comment le Verbe réalise-t-il cette union? Et pourquoi le Verbe? Pourquoi pas le Père? Pourquoi le Père nous a envoyé le Fils? Il aurait pu venir lui-même. Ou il aurait pu envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi le Fils? Pourquoi le Verbe? Et ensuite, l'homme. Comment l'homme, du fait même qu'il est uni au Verbe, est complètement transformé? Le Christ, c'est l'homme parfait, mais c'est pas l'homme de la rue. C'est l'homme. Alors il y a eu des choses très curieuses, très mystérieuses, comment Dieu, autant qu'on peut le connaître, comment Dieu a fait que Jésus, cet homme parfait, puisse souffrir. Comment cet homme a toutes les perfections et en même temps, cette possibilité de souffrir. Est-ce que le Christ pouvait pécher? Non. Parce qu'il est uni au Verbe d'une façon telle qu'il ne pouvait pas pécher. Alors on voit à la fois les qualités de cet homme et en même temps sa fragilité. Être capable de mourir. Tu as permis que celui qui est l'homme parfait soit capable de... Alors que le premier Adam, avant le péché, ne devait pas mourir. Et le second Adam, qui n'a jamais péché, est capable de mourir. Pourquoi n'a-t-il pas fait un nouvel Adam dans l'Éden qui ne devait pas souffrir, qui ne devait pas mourir? Parce que Jésus vient prendre la place du pécheur. Et pour prendre la place du pécheur, il fallait qu'il porte la peine, conséquence du péché, la mort. Avec la mort, la souffrance, la tristesse, la capacité de mourir. Mais toute cette vision du mystère de l'incarnation, toujours dans la lumière de la croix, du salut. Si l'incarnation s'était faite pour achever l'univers, Dieu l'aurait fait autrement. Le mystère de l'incarnation s'est fait en vue du salut. Parce que Dieu aurait pu très bien faire une incarnation tout à fait différente. Il y avait des possibilités différentes. C'est très important de comprendre ces possibilités différentes pour mieux comprendre le choix de la sagesse de Dieu. Tu aurais pu faire un Christ glorieux tout de suite. J'aurais été conquérant. Vous voyez ça, un petit enfant glorieux, un petit génie extraordinaire, merveilleux. Un petit enfant lumineux. On fait des statues lumineuses. Un petit enfant lumineux. Un prodige. Non. L'enfant Jésus n'a pas fait de prodige. L'enfant Jésus était comme un tout petit enfant. Pour la foi de la très sainte Vierge. Hein. Entendre l'enfant Jésus gémir comme un enfant, un Dieu qui gémit. Ah, il n'y avait pas de caprice. Mais il était parfaitement selon sa nature humaine. Il était capable de souffrir. Et dès le point de départ, ça s'est manifesté. Oui, ça c'est pour faire comprendre la perspective chrétienne de saint Thomas. tout le traité du Christ est commandé par le Concile de Chalcédoine. Bon, alors, on va regarder uniquement l'union en elle-même. Au sujet de l'union elle-même, diverses questions se posent. Oui, pensez aux vitraux de Chartres. Chaque question de saint Thomas, c'est un vitrail. Et l'unité, c'est pas l'article, c'est la question. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'intention de saint Thomas dans une question. Et puis voir toutes les petites pierres qui sont ajoutées, toutes les petites pierres brillantes. Donc, au sujet de l'union en elle-même, le mystère de l'union du Verbe par rapport à la nature humaine. On se pose donc 12 questions. L'ordre des questions, c'est capital. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Saint Thomas reprend souvent cette parole d'Aristote. Le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est pour ça que l'architecte ordonne, architectonique. Le prince de l'art, l'architecte, il ordonne parce qu'il est le sage dans l'art, chez l'artiste. Alors il ordonne. Et l'architecte a un sens de l'ordre. Et quand il est en face du désordre, il souffre comme architecte, comme artiste. C'est le propre. Le propre. Du philosophe, puisque c'est une sagesse, c'est d'ordonner. Le propre du théologien, c'est d'ordonner. Le propre du mystique, c'est d'ordonner. Mais toujours des ordres différents. Ici, il s'agit d'un ordre scientifique, à l'intérieur de la théologie, subalterné à la vision béatifique. Premièrement, l'union du Verbe incarné se fait-elle dans la nature? Ah, première question. Est-ce que c'est une mixture? Il y a deux unions. Il y a une nature humaine, une nature divine. Est-ce que ça va s'unir pour donner une troisième nature? Vous voyez, toujours ces imaginations. Vous savez, l'homme-cheval. L'homme-cheval. L'homme-poisson. Je recite ça parce que ça revient aujourd'hui. Hein. On fait des recherches au point de vue biologique pour savoir si ces mythes ne sont pas réalisables. Ces jours, vous allez voir ça. Heureusement que ce sont des mythes. Mais c'est dans l'intent. Alors, tout de suite, est-ce qu'il y a une possibilité d'unir la nature humaine et la nature divine et de faire un être qui soit mi-dieu, mi-homme. Une mixture. Évidemment, saint Thomas écarte ça. Hein. Vous allez le voir tout à l'heure. Se fait-elle dans la personne? Ah, voilà. Alors, il faut comprendre la différence entre nature et personne. Ce qui n'est pas si commode. Hein. Se fait-elle dans le suppôt ou l'hypostat? Alors là, ce sont des mots baroques. Vous ne comprenez pas, on va les expliquer. La personne ou l'hypostase du Christ après l'incarnation est-elle composée? Dans le Christ, l'âme et le corps sont-ils unis? L'union de la nature humaine au Verbe est-elle accidentelle? Cette union est-elle quelque chose de créé? L'union est-elle identique à l'Assomption? Est-elle la plus étroite qui soit? Ça, c'est une très belle question. Article 9. Oui, après avoir vu tout ça, on voit que c'est l'union la plus excellente qui soit. C'est celle que Dieu a réalisée. L'union des deux natures dans le Christ a-t-elle été réalisée par grâce? Donc, selon le bon plaisir de Dieu. Y a-t-il dans le Christ, en tant qu'homme, une grâce qui lui serait naturelle? C'est une très belle question. Le mystère de l'union hypostatique. Alors tout de suite, je regarde la première objection. Je ne veux pas aller plus loin. D'après une parole de Saint Cyrille, rapportée par les actes du Concile de Chalcédoine, l'on ne doit pas admettre deux natures, mais une seule nature incarnée de Dieu, le Verbe. Ce qui semble indiquer que l'union du Verbe et de l'humanité se fait dans la nature. On s'appuie sur l'autorité Saint Cyrille à travers le Concile de Chalcédoine. On s'appuie sur l'autorité de Saint-Denis. Oui, on s'appuie sur toutes les autorités des pères qui ont quelquefois des textes plus ou moins précis. Alors, en face de toutes ces autorités, de toutes ces opinions qui semblent indiquer que l'union est dans la nature, Saint Thomas rappelle le Concile de Chalcédoine déclare: confessons un seul et même Fils unique de Dieu, né pour nous dans les derniers temps, en deux natures, sans mélange, sans transformation, sans division, sans séparation, car l'union n'a pas été supprimée, car l'union n'a pas supprimé la différence des natures. C'est donc que l'union ne se fait pas dans la nature. Donc, premier article négatif. C'est droit d'être suffisamment net là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la personne? Puisque l'article suivant, c'est de montrer qu'en fonction de ce qui a été défini au Concile de Chalcédoine, dans les actes du Concile de Chalcédoine, nous confessons un seul et même Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est ni partagé, ni divisé en deux personnes. Il faut donc que l'union soit faite dans la personne. Voyez, c'est ça qui est important à comprendre. Alors, évidemment, tout le problème d'aujourd'hui, ce sera d'appliquer l'herméneutique aux conclusions du Concile de Chalcédoine. Le Concile de Chalcédoine a défini ça dans tel contexte historique de culture chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte historique de culture totalement différente. Ne doit-on pas réinventer pour adapter cette conclusion du Concile de Chalcédoine à notre monde d'aujourd'hui? C'est ça qu'on appelle le problème de l'herméneutique. C'est de dire que la signification des mots n'est plus la même. Alors, est-ce qu'on doit changer les mots? Ça va très loin, ça. Vous savez bien que certains ont voulu, par exemple, reprendre tout l'évangile à la place de prendre des comparaisons du Christ, prendre des comparaisons mécaniques. Faites un évangile pour le mécano. Alors vous reprenez tout au point du terme technique. On le fait automatiquement quand on est en face de garçons qui jouent à l'auto et de filles qui jouent à la poupée. C'est plus facile. Aujourd'hui, comme les garçons et les filles jouent tous à l'auto, alors c'est mécanique. Ou la moto. Alors, on le fait automatiquement dans l'adaptation du langage. C'est pas toujours commode. Mais si on on est, si on vit de sa doctrine, si la doctrine est une chose vivante en nous et contemplée, on trouve les mots. Ça, c'est la communication. Mais la théologie n'est pas la communication. C'est autre chose. C'est la doctrine de l'Église. Une doctrine traditionnelle qu'on doit comprendre. Et donc, on doit faire l'effort herméneutique d'interprétation. Donc, nous voyons ici que ces deux articles, l'article 1 et 2, de la question tertia pars, question 2, article 1, article 2. L'article 1 est négatif. L'union ne se fait pas dans la nature. Mais qu'est-ce que c'est que la nature? L'union se fait dans la personne. Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est très vrai qu'aujourd'hui, dans le langage philosophique, le mot nature et le mot personne ont pris des significations différentes.